Now.
Maintenant, sur Euradio.
Workplace in Europe.
Une émission animée par Marianne Bousquet, Mélanie Baroche, Marie-Laure Godino, Soline Gicot.
Même si nos frontières se sont fermées et que nous ne pouvons plus voyager, aujourd'hui nous quittons l'Europe pour aller, vous allez l'entendre et le reconnaître rapidement, au Québec, où notre curiosité va se porter sur l'expérience employée telle qu'elle y est prônée. Marianne, peux-tu nous préciser cette notion ?
Nous savons que les entreprises doivent se réinventer et faire preuve d'innovation afin notamment d'attirer des nouveaux talents, de fidéliser leurs collaborateurs et de rester performantes. Alors, pour répondre à ces défis, le concept d'expérience employée qui a émergé il y a une dizaine d'années a pris une place de plus en plus importante et révolutionne aujourd'hui les ressources humaines, les méthodes de management et parfois aussi la culture même de l'entreprise. L'expérience employée est désormais vraiment au cœur des stratégies d'une majorité d'entreprises et elle est un levier puissant pour la marque employeur. Et donc c'est sur ce sujet, l'expérience employée, que nous allons nous concentrer aujourd'hui dans notre émission. Nous connaissons cette étude Gartner de novembre 2019 qui dit que 2% du taux de satisfaction des employés entraînerait une amélioration de 1% de la satisfaction des clients. L'impact de l'expérience employée est donc évidente sur la croissance de l'entreprise et sur l'image qu'elle véhicule.
Oui, nous sommes en direct avec Annie Chaumont, vice-présidente ressources humaines chez GFO, leader mondial dans le secteur des additifs alimentaires non médicamenteux pour la nutrition animale. Bonjour Annie.
Bonjour les filles.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour Workplace in Europe sur Euradio. Annie, déjà d'entrée de jeu, je me permets le tutoiement parce que bon, on se connaît un petit peu et je crois que le tu s'emploie facilement au Québec. Qu'en est-il réellement en entreprise ? Et pour faire le pont avec ce que Marianne disait, crois-tu que le tutoiement profite à l'expérience employée ?
Alors, bonjour les filles, merci infiniment, Mélanie, Marianne. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on commence en force avec mon accent et le tutoiement. Et moi, ça va être très facile aujourd'hui parce que vous êtes deux à la console radio et je sais que vous avez un technicien derrière, donc je peux vous voir facilement. Je ne me tromperai pas et je n'aurai pas de tendance à glisser dans le tutoiement. Mais plus sérieusement, Mélanie, le tutoiement est en effet bien présent dans l'entreprise GFO, où nous travaillons toutes les deux, et où j'agis comme vice-présidente RH. Par contre, je ne serais pas capable aujourd'hui de m'avancer sur le fait que dans toutes les entreprises, le tutoiement est pratique courante. Je n'irai pas jusque-là, j'ai travaillé dans d'autres environnements où le vouvoiement était de mise. Mais chez GFO, le TU est grandement utilisé et représente un peu la proximité qu'on veut créer avec les employés. On veut chercher à établir une relation d'étroite collaboration ou encore de solidarité sociale et c'est ce qu'on veut prôner dans l'organisation. Alors, le TU est là et bien présent et même jusque avec le président. Comme Marianne le disait en introduction tout à l'heure, l'expérience employée se décline en multiples facettes dans les organisations. Et si je cherche à extrapoler, probablement, oui, que le tutoiement pourrait avoir un impact sur l'expérience employée. En fait, ce que je pense dans un mode d'extrapolation, c'est que les modes de communication en entreprise ils ont un impact direct sur le niveau d'adhésion, de mobilisation de nos employés à la marque employeur. Donc, le tutoiement chez GFO, ça va bien au-delà d'un simple tutoiement. Le fait de l'utiliser, le TU, dans la pratique courante, c'est pas un manque de respect entre les employés et la hiérarchie. C'est plutôt une façon de faciliter l'expression des idées et, comme je le disais tantôt, de créer cette relation-là avec autant les gestionnaires que les collègues et collaborateurs. Je résumerai ça en disant surtout que la barrière hiérarchique qui est présente dans certaines compagnies ou d'autres pays, qui est renforcée dans d'autres pays, c'est adouci dans le modèle québécois et adouci chez GFO. Par contre, Mélanie, je te retournerai la question. On travaille au sein du même groupe. J'avais en mémoire qu'en Europe, en France en l'occurrence, donc la hiérarchie étant plus présente, le vouvoiement était de mise. Est-ce que c'est comme ça de ton côté pour la filiale européenne GFO Europe?
Bah effectivement, le tutoiement est également de mise chez GFO Europe et cela vient directement de la proximité voulue par donc Jean Fontaine, le fondateur de GFO, et que la direction de GFO Europe a reprise. Annie, je vois que nous sommes déjà emballés par le sujet du jour, car nous sommes déjà tombés dans le vif du sujet,
exact.
Justement.
Oui.
Mais avant d'aller un petit peu plus loin, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ton parcours et puis l'activité du groupe, s'il te plaît?
Bien sûr, certainement. Oui, en effet, on rentre rapidement dans le vif du sujet. Et je vais me permettre juste une chose avant de répondre à ta question, Mélanie. Évidemment, mon accent est là. L'utilisation des termes et des mots aussi pourrait créer une certaine confusion auprès de vos auditeurs. Je vous inviterai, Mélanie, Marianne, s'il y a des mots que j'utilise qui ne sont pas les bons, n'hésitez pas à soit me demander une clarification ou à préciser. On échangeait déjà des courriels et on se disait gestionnaire, manager, donc je vais tenter d'adapter mon discours, mais ne vous gênez pas les filles si c'est nécessaire. Alors, voilà, donc pour revenir à ma petite histoire professionnelle ainsi que celle de Jeffo, je suis en mandat chez Jeffo Nutrition depuis septembre 2019 à titre de vice-présidente RH. Je gère une équipe de 5 personnes auxquelles s'ajoutent des partenaires RH internationaux comme ton rôle est déjà là chez Jeffo Europe, Mélanie, à titre de directrice des ressources humaines du groupe Jeffo Europe. J'ai été embauchée afin de faire progresser l'approche ressources humaines au sein de l'organisation. Donc, depuis mon arrivée, je m'efforce de faire passer l'entreprise qui était un peu plus dans un mode RH transactionnel. Je m'explique, je vous donne un exemple. Exemple, on fait des contrats, on recrute et on émet les payes aux employés à un mode ressources humaines relationnelles communicationnelles. Ça se transpose au quotidien dans la création d'un centre d'expertise RH qui donne du service conseil à nos différentes équipes mondiales, à nos différents managers, et qui développe aussi des saines pratiques de gestion avec les cadres, la haute direction, qui établit des stratégies de développement de compétences, de rémunération globale, toujours dans un souci d'équité, de relations de travail, de communication organisationnelle, interpersonnelle, de santé mieux-être, et j'en passe. Donc, le tout pour, bien sûr, valoriser l'expérience employée. Mon parcours professionnel a été teinté depuis le début de ma carrière, qui, j'ose pas le dire, mais on est déjà rendu à presque 20 ans. Donc, mon parcours a été teinté par cette valorisation-là de l'expérience employée. En 20 ans, j'ai eu 4 expériences professionnelles différentes, en fait 4 employeurs significatifs, là, vraiment qui ont eu un impact sur ma carrière, qui avaient un point en commun, c'était de mettre les employés au cœur de l'organisation. Donc, je me suis forgée professionnellement parlant selon cette approche, mais tout en considérant le fait qu'une entreprise doit trouver un juste équilibre entre sa performance financière, évidemment, on est là pour générer du profit, et l'expérience employée. On verra tantôt, là, dans probablement différents de nos échanges, comment ça se transpose. À mon embauche, lorsque j'ai rencontré M. Jean-François Fontaine, VP opérations exécutif et relève dans la compagnie, dans la succession de la compagnie, donc j'ai toujours su qu'il y avait un fit en termes de valeur et de culture d'entreprise entre Jeffo et ma personnalité et parcours de compétences. J'ai donc accepté le mandat et je suis là depuis donc septembre avec grande fierté. Jeffo, c'est une magnifique entreprise québécoise qui a maintenant une portée mondiale, qui est née en 1982 de l'inspiration d'un homme ultra passionné et qui a encore cette passion-là, M. Jean Fontaine. Donc, l'entreprise y promouvoit des valeurs d'agilité, collaboration, engagement, ingéniosité, convivialité. Des valeurs qui, pour moi, résonnaient très, très fortement pour l'expérience employée et pour moi aussi en termes de fit, là, comme je vous disais tantôt, de carrière. Jeffo, à travers les années, a su allier l'intuition entrepreneuriale, la science et l'humain. Donc, pour moi, il y avait déjà d'excellentes bases de poursuivre le mandat qu'il avait initié en ressources humaines. Au fil du temps, ce que je connais de Jeffo, donc Jeffo est devenu un chef de file mondial dans les solutions nutritionnelles non médicamenteuses de haute performance pour les animaux. L'objectif fondamental de l'entreprise est d'améliorer la santé animale et d'accroître la longévité humaine en alimentant les populations croissantes avec, dans le fond, de meilleures sources de protéines. Donc, depuis 82, Jeffo a connu une expansion extraordinaire à travers le monde et ça donne aujourd'hui, en termes de relations et ressources humaines, une incroyable diversité dans l'organisation. En 2012 et maintenant, on est passé de 92 employés à plus de 450. 450 employés à travers le monde qui gravitent dans différents types d'emplois et fonctions, différentes formations, expertises, culture. Et ce groupe-là conçoit, vend et distribue plus de 200 produits dans 80 pays différents à travers le monde. Donc, pour moi, c'est un très, très beau succès. Sur le plan RH, ma vice-présidence agit sur environ 330 employés des 450 que je vous ai nommés. Je ne m'occupe pas directement de la filiale logistique et transport. Ça ne fait pas partie donc de mon mandat de gouvernance pour l'instant. On verra comment l'histoire évoluera. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Dans le fond, avec la croissance importante qui se continue toujours aujourd'hui, Jeffo est de plus en plus visible sur le marché de l'emploi dans plusieurs pays. Et c'était donc important pour la haute direction de se positionner comme un employeur de choix qui était capable d'attirer, fidéliser, mobiliser les meilleurs talents mondiaux et évidemment conserver ces meilleurs talents aussi au sein de l'organisation. Donc, l'expérience employée, comme vous le comprenez avec ce que je dis déjà, prenait donc tout son sens dans la stratégie corporative. D'un point de vue, si j'essaie de mettre un peu de KPI ou de regarder la croissance de Jeffo dans une vision data analytique, donc si on met des données et des indicateurs à travers le langage RH, Jeffo a maintenu à travers le temps un taux de roulement plus faible qu'à la moyenne au marché, donc les compétiteurs, puis un taux de vélocité à l'embauche plus rapide que les compétiteurs. Donc, la vélocité pour moi est le temps que ça nous prend, les équipes RH, à combler un poste à partir du moment où est-ce qu'on active le processus de recrutement. Pour moi, ces facteurs-là qui étaient déjà présents, les facteurs positifs, faisaient en sorte que je voulais préserver les acquis et bonifier cette recette gagnante-là qui avait fait en sorte que les indicateurs d'attraction et de rétention des employés allaient rester favorables puisqu'ils l'étaient déjà dans la compagnie. Alors, pour moi, avec cette base-là que nous avions dans la compagnie, mixé à ça mon bagage d'expérience, tout était en place pour renforcer l'expérience employée au sein de l'organisation.
Merci beaucoup, Annie. De par nos recherches et connaissances, l'expérience salariée pourrait se définir par deux leviers. Et tu en as déjà parlé en introduction, c'est l'attraction des candidats et des talents, la fidélisation et puis le sentiment d'appartenance. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta vision en tant que telle de l'expérience salariée, nous partager ta définition?
Bien certainement, je peux tenter de faire ça et je vais tenter de le garder le plus simple. En réflexion et en préparation à la rencontre d'aujourd'hui, j'essayais de figurer des analogies qui permettraient à l'auditeur de mieux comprendre ce qu'est et comment se transpose l'expérience employée, parce que ça reste pour certains cadres, dirigeants et même ressources humaines un concept qui est intangible et abstrait. Si on remonte il y a de ça 10 ans, 15 ans, avant, un employé ou un futur employé d'une compagnie regardait pour un emploi principalement deux facteurs, le salaire et la sécurité d'emploi. Très peu d'autres critères entraient en ligne de compte dans le choix du candidat ou du futur employé en matière d'emploi. Celui-ci, pour le cas présent, on va l'appeler notre chercheur d'emploi, avait peu d'informations sur la concurrence ou les types d'industries en tant que telles et se contentait de choisir un métier sans trop se questionner et surtout comparer. Évidemment, il n'avait pas accès à autant d'informations que nous avons déjà. Donc, depuis les 10 dernières années, un virage important avec l'accroissement et l'accès à l'information vis-à-vis des plateformes aussi importantes qu'on trouve sur Internet. Entre autres, ici, il y a Rate My Employer qui nous amène à pouvoir aller voir ce que les employés actuels pensent de l'employeur. Donc, le chercheur d'emploi d'aujourd'hui a accès à une série d'informations qu'il va venir analyser pour prendre son choix par rapport à un emploi. Donc, l'entreprise Jeffo, entre autres, et tous les autres, mais Jeffo, ont dû se mettre à travailler sur des conditions d'emploi ou ce qu'on appelle des moments de vérité pour attirer, retenir et mobiliser les candidats et leurs employés actuels. Donc, comme je disais tantôt, l'accès à l'information via Internet, ça a donné une toute autre couleur à la recherche d'emploi. Et si on ajoute à ça la pénurie de main-d'œuvre dans certains pays ou certains types d'industries, alors là, je pense qu'on a un cocktail puissant qui va nous amener, nous, comme employeurs, à éprouver des difficultés d'embauche ou de rétention du personnel. Les entreprises doivent aujourd'hui se démarquer pour attirer les meilleurs talents et les retenir. Bon, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Évidemment, la situation pandémique a fait en sorte que ça l'a mis un peu plus sur pause, le taux de roulement dans certaines entreprises, mais ça reste quand même que les profils socio-démographiques de certaines de nos sociétés, si je regarde ici au Québec et dans le domaine de l'agroalimentaire, il n'y a pas de relève ou très peu. C'est une industrie qui est moins attirante, moins sexy pour les jeunes. Donc, nous devons être très, très créatifs en matière d'initiatives pour favoriser l'expérience employée. Il y a 10 ans de ça, comme tu le disais, Marianne, tout à l'heure, quand le concept d'expérience employée est sorti, on parlait souvent à ce moment-là d'espaces collaboratifs ou des bureaux magnifiques. On parlait aussi d'ajouter des tables de baby-foot, des espaces de jeu pour les employés. On parlait de repas qui étaient offerts aux employés ou encore des cafés de spécialité. Donc, toutes sortes de petites méthodes qui avaient été mises en place à ce moment-là. Selon moi et avec ce que je vois, l'expérience employée est passée au niveau 2.0 au cours des 3, 4, 5 dernières années et ça va avoir encore à se transformer avec la situation pandémique parce que là, on doit non plus regarder des biens tangibles qu'on va offrir aux employés, mais l'expérience employée, elle se transpose dans toutes les phases de la vie d'un employé, donc le cycle de vie d'un employé, de l'embauche jusqu'à la fin d'emploi, en passant par tous les mécanismes de développement de compétences, de communication au sein de l'organisation, les déclinaisons des valeurs corporatives, le leadership. Bref, il y a une complexité qui s'est créée en matière d'expérience employée et auquel on est confronté. En plus de ça, bien évidemment, on doit, j'utiliserai l'expression, on doit walk the talk. Donc aujourd'hui, si on se commet à développer un leadership collaboratif et empathique, ben on doit vraiment livrer nos promesses et développer nos gestionnaires dans cette approche-là parce que les employés nous regardent. Et si par malheur, on ne répond pas à ces promesses-là, eh bien, ça fait un levier de fin d'emploi potentiel. L'employé va se tourner vers un autre type d'entreprise. Donc, des promesses en l'air, ce n'est plus possible. Comme gestionnaire, on a donc une imputabilité, une responsabilité de faire vivre l'expérience employée dans tous les mini-détails qu'on lui donne. Je vous ai dit tout à l'heure que le facteur COVID pouvait avoir influencé sur la définition de l'expérience employée. On le verra, je pense, dans le temps. Ici au Québec, et c'est certainement le cas aussi en France, vous me direz, il y a eu la montée du concept de sécurité en entreprise. La sécurité en entreprise maintenant passe par l'application de la distanciation, l'application des mesures sanitaires, mais donc un employeur qui ne respecterait pas ça aura des impacts plus tard parce que les employés voudront possiblement regarder ailleurs en se disant l'employeur n'a pas su respecter cette mesure-là. Donc, ça s'inscrit maintenant même au niveau de l'expérience employée. Si je ramène ça à Jeffo, donc dans ma définition, c'est une entreprise donc, qui a été très active en matière d'expérience employée depuis quand même 5-6 dernières années. Avant mon arrivée, la haute direction avait entrepris d'importants investissements pour des initiatives liées à l'expérience. On a ici de magnifiques locaux, un campus qui est extraordinaire, lumineux, conçu pour la collaboration, des espaces de détente et de jeu. Et depuis 2019, avec mon arrivée, en plus de ces éléments-là qui sont présents, on travaille sur des moments de vérité, des événements critiques dans la carrière d'un employé qui va favoriser l'engagement. Voilà.
Fort pertinent. On a hâte d'en savoir un peu plus encore. On vous propose pour le moment une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite.
Seul qui fait beau dehors, j'ai pas pris le temps de regarder. Ça fait 3 heures que je fixe une vieille photo de toi et puis c'est fou comme on est beau et je comprends pas ce qui s'est passé. Maintenant t'es juste un vieux bobo que j'essaie d'oublier. Oh, la vie c'est une peine d'amour, puis y'a rien qui va changer si je ne change pas à mon tour. Je changerai pas pour toi. matin à tracer nos chemins.
In Europe.
Nous sommes aujourd'hui avec Annie Chaumont, vice-présidente ressources humaines chez GEFO, et nous parlons expérience employée. Peux-tu, Annie, nous en dire un peu plus sur tes points d'attention chez GEFO? Sur quel sujet es-tu vigilante? Et qu'est-ce qui t'importe en tant que DRH sur le sujet expérience salariée?
Bien sûr, Marianne. D'abord, je te félicite. Tu réussis à continuer à me tutoyer. C'est excellent. Donc, la relation est très, très bonne. Alors, comme on le disait un peu plus tôt tout à l'heure, GEFO avait déjà initié l'approche expérience employée avant que j'arrive. Le terrain était propice pour que je puisse accentuer l'approche. Il y a des tonnes d'exemples que je pourrais vous donner. En un an et demi, il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place chez GEFO. Mais je vais devoir synthétiser aujourd'hui pour les fins de la conversation. Donc, en recrutement, entre autres, exemple concret, on a mis en ligne des capsules « Trouve ton boss ». La principale base de cette capsule-là était de valoriser non pas l'organisation, mais les styles de gestionnaire. On le sait, pour plusieurs candidats, le principal facteur de mobilisation après le salaire, c'est le patron. En 2020, l'une des principales raisons pour lesquelles on quittait l'organisation, c'était encore le patron. On a recensé au Québec que presque un tiers des chercheurs d'emploi quittent leur emploi actuellement parce qu'ils ne s'entendent pas avec leur gestionnaire. Donc, par cette initiative-là, pour nous, c'était de démontrer le style de leadership communicationnel, relationnel, de proximité qu'on voulait créer avec les employés. En accueil intégration, donc on est toujours dans le cycle de vie d'un employé, donc une fois embauché, en accueil intégration, on a revisé, et c'est encore en cours un chantier actuel, le processus d'accueil et d'intégration internationale pour s'assurer que nos employés de partout dans le monde, ils s'imprègnent de notre culture de proximité, et bien que le siège social soit à 11 000 km de Delhi, par exemple en Inde, alors on est capable de créer cette proximité-là par le processus qui s'échelonne sur un 3 semaines structuré et organisé. Et ça permet à l'employé d'avoir une intégration plus facile, qu'il puisse être efficace et pleinement actif dans son poste. Tout le monde y gagne. L'employé est en confiance, bien équipé pour accomplir sa mission et l'entreprise aussi en ayant un retour sur investissement face à l'embauche. Autre initiative, issue de COVID, celle-là. Donc, il faut saisir certaines opportunités. Donc, pour favoriser le maintien d'une santé mentale de nos employés en cette période qu'on sait plutôt particulière, on a implanté au printemps dernier un programme d'aide aux employés. Donc, c'est pour l'instant offert aux employés du siège social, mais ça donne et ça offre un service gratuit de counseling confidentiel, accessible 24/7 pour les problèmes qui sont liés au travail, mais aussi d'ordre familial. familial, financier ou juridique. Dans ma définition à moi, un employé, c'est comme une série de poupées russes. Donc, si la dimension familiale ne va pas bien à la maison, qu'il y a une pression et un stress accru, il y aura possiblement des répercussions sur son emploi au quotidien. Donc, ce service-là est une initiative de l'expérience employée qui permet de favoriser le win-win autant du côté de l'employé que l'entreprise. On a plusieurs autres chantiers aussi, Marianne, qui sont en cours actuellement. Donc, on a tenté de reprendre nos activités sociales et culturelles qui sont hyper importantes chez Jeffo et importantes pour la culture de l'entreprise et de passer d'un mode présentiel à virtuel. Alors, comment faisons-nous vivre l'expérience employée chez Jeffo à partir, par exemple, du groupe Facebook sur la Saint-Valentin? Il y a énormément de belles photos qui ont été postées sur le groupe Facebook interne de l'entreprise. Et un concours s'est rattaché à ça. Ça nous permet donc de garder cette proximité-là avec les employés et de favoriser le sentiment d'appartenance. Un point important qu'on oublie, mais que moi j'intègre dans les initiatives d'expérience employée, c'est la refonte de nos politiques RH d'entreprise. Vous allez me poser la question en quoi des politiques qui peuvent être d'un ton corporatif, lourd et ennuyant, peuvent être un levier de l'expérience employée. Moi, je vous répondrais que les politiques sont des règles de gestion et de décision de l'entreprise. Si elles se matérialisent à travers des politiques et qu'elles sont diffusées auprès des employés, ça peut avoir une très grande valeur ajoutée puisque l'employé va être cadré, va connaître et savoir vers où la direction sera. Donc, ça favorise une meilleure responsabilisation et une meilleure imputabilité de nos employés, tout en leur donnant l'autonomie décisionnelle dont ils ont besoin dans leurs fonctions. Alors, pour moi, les politiques, c'est un outil de gouvernance, mais qui doit être vu, su et connu de tous. Petite nuance, on parlait tout à l'heure de la dimension de communication. Une politique, oui, elle doit être rédigée selon le ton corporatif qu'on connaît, mais ensuite, elle doit avoir et prendre une forme un peu plus marketing. Donc, on doit apprendre à la vulgariser et à adapter le contenu à nos auditoires, donc à nos différents types d'employés.
À ces initiatives, Annie, est-ce que vous avez des retours des salariés? Qu'est-ce qu'ils en pensent et quels sont les éventuels commentaires, avis qu'ils t'ont transmis? Est-ce qu'on remarque un engagement plus marqué grâce à ces initiatives? Et est-ce que ils manifestent leur sentiment de bien-être au travail? De ce fait aussi, est-ce que tu as constaté un plus faible turnover du fait de l'attention à ce que le salarié se sente écouté, considéré, valorisé?
C'est une bonne question, Marianne, et c'est un work in progress, c'est un chantier encore. En 2019, quand je suis arrivée, il y avait des sondages employés satisfaction qui étaient faits chez Jeffo. Avec mon arrivée, autre priorité, on n'a pas pu remettre en place, mais c'est une initiative qui reprendra probablement post-COVID. Donc, au moment du sondage, les résultats avaient démontré un taux élevé de satisfaction des employés envers l'employeur, mais il y avait des éléments clés à travailler quand même, comme toute bonne organisation, dont entre autres une plus grande transparence de la part de la direction, ainsi qu'une communication plus fréquente et fluide. Ces résultats-là ne m'ont jamais surpris. C'est le propre de plusieurs organisations. Nous sommes des humains. L'un des challenges que nous avons, c'est la communication, apprendre à se comprendre. Et on le disait tout à l'heure, même si on parle le même langage, la même langue française, il y a certains mots qui vont prendre des sens différents dans une ou l'autre de nos cultures. Donc, c'est la même chose en entreprise. Comme je vous disais tout à l'heure, le sondage sera repris probablement en 2021 ou 2022, selon la situation pandémique, qui, nous l'espérons, nous en sortirons bientôt. Alors, pour l'instant, ce que j'ai, c'est des commentaires et du feedback qu'on essaie de prendre en continu auprès de nos employés et de nos gestionnaires via le centre d'expertise RH, entre autres. Et ici, c'est une culture de porte ouverte, donc les employés peuvent venir me parler, les gestionnaires peuvent venir nous parler et à chaud nous donner leur feedback rétroaction par rapport à une initiative donnée.
Est-ce qu'Annie aussi, on peut relayer en fait l'expérience employée aux concours commerciaux auxquels Jeffo participe, ainsi qu'aux organismes de conformité qui nous demandent et exigent de répondre à des très hauts standards, comme par exemple, là je fais référence au programme des sociétés les mieux gérées. Pour les auditeurs, il existe au Canada en fait ce type de programme qui donne des prix remis aux sociétés détenues et gérées par des Canadiens qui, grâce à leur gestion novatrice et à leur performance financière, excellent de façon continue. Et c'est chaque année des centaines d'entreprises qui participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux qui permet d'évaluer leurs capacités et pratiques de gestion. Et depuis 5 ans, en fait, GFO est parmi ces sociétés lauréates. Et qu'est-ce que ça signifie, Annie, en fait, et comment l'expérience salariée-employée peut avoir une influence sur les prix qu'obtient GFO?
C'est un bon point, Mélanie. Puis si, en ce moment, on n'est pas capable d'évaluer l'expérience employée avec nos propres employés, au moins ces concours-là, c'est un peu un sounding board intéressant qui, oui, je crois, peuvent nous servir pour nous positionner en matière d'expérience employée et d'initiative. Comme tu le disais, le concours des sociétés les mieux gérées au Canada, c'est un palmarès fort important qui est utilisé ici au Canada et qui a pour but de reconnaître l'excellence des sociétés qui sont détenues par des Canadiens et dont les chiffres d'affaires dépassent, ma mémoire est bonne, 25 millions. Donc, chaque année, je sais qu'il y a des centaines d'entreprises qui y participent. Le processus est indépendant, rigoureux et évalue les capacités et pratiques de gestion. Donc, GFO est lauréate. Et lorsqu'on soumet notre candidature, on doit exposer toutes ces pratiques qui sont rattachées à l'expérience employée. Alors, le concours et le fait que l'on gagne a un lien, une corrélation directe sur le fait qu'on a un bon positionnement.
Plusieurs initiatives ont été mises en place et d'autres sont encore en chantier, comme tu as pu le dire. Mais je doute que ce soit toujours facile de convaincre la haute direction d'implanter une philosophie d'expérience employée et que celle-ci soit déclinée en tactiques concrètes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les difficultés rencontrées au cours de ton parcours et ton secret pour arriver à influencer suffisamment pour générer l'adhésion?
Certainement, des difficultés, elles sont nombreuses. D'abord, l'équipe RH, n'est-ce pas? C'est pas parce que nous sommes en ressources humaines qu'on fait vivre l'expérience employée naturellement. J'ai dans mon équipe des gens qui ont une expérience plus traditionnelle, des parcours plus traditionnels. Alors, les conseillers eux-mêmes doivent être les premiers ambassadeurs. Pour favoriser l'adhésion des conseillers, j'ai nommé un ambassadeur dans mon équipe qui porte le chapeau d'expérience employée. Donc, lui devient le gardien de la philosophie à travers mon équipe et il s'assure que chacun des conseillers ait en tête cette expérience employée-là à chacun des moments de vérité d'un employé ou d'un candidat chez GFO. Alors ça, c'est un secret, donc d'avoir un employé qui regarde le cycle de vie de tous les employés et s'assure que dans l'équipe de conseillers RH, ce soit porté par les spécialistes et généralistes RH. Autre difficulté qu'on a pu rencontrer aussi, l'industrie en tant que telle. L'industrie agroalimentaire, c'est une industrie un peu plus traditionnelle et conservatrice, bien qu'elle soit déjà tombée dans l'innovation et qu'elle doive se démarquer. Donc, on a certaines mentalités à faire changer et évoluer. Si on travaillait pour les firmes technologiques ou numériques, exemple les Google de ce monde, les Facebook, Instagram, on est dans un autre monde pour lequel l'expérience employée est déjà intégrée dans les comportements au quotidien. Donc, différents types d'industries peuvent nous amener à moduler les initiatives et surtout travailler sur la gestion de changement vers l'expérience employée. Il ne faut pas perdre de vue qu'un départ coûte en moyenne de 0,5 à 2 fois le salaire de l'employé qui quitte. Donc, en coût direct et indirect, l'expérience employée prend tout son sens pour être une stratégie de rétention forte. Et ça, les entrepreneurs doivent le savoir, peu importe le type d'industrie dans lequel ils sont.
Et Annie, est-ce que la présence de GFO sur les 5 continents ne constitue pas justement un défi en termes d'expérience employée? Et comment on applique dans 80 pays une même expérience ou du moins en faire en sorte de garder un socle commun?
Oh, c'est un très bon point, Mélanie. Tu ne peux mieux dire. Écoute, la diversité dont comporte GFO est un incroyable challenge, positif ceci dit. Hein. Ce n'est pas une contrainte, c'est un levier de force. Mais j'ai été dans des environnements auparavant qui étaient beaucoup plus uniformes. Même type d'employé, même type de fonction, même groupe d'âge, même pays ou ancrage, lieu de domicile, etc. Chez GFO, on a un groupe qui est non homogène avec des scolarités différentes, des fonctions différentes. Donc, c'est très difficile de satisfaire l'ensemble de notre population d'employés, puisqu'ils ont des besoins qui sont différents. Alors, ce niveau d'insatisfaction-là, il faut s'y méfier un peu. Et je vous donnerai très, très rapidement l'anecdote de la salade de fruits. Un jour, on offrait des pommes déjà. Bonne initiative, offrons des pommes à nos employés. Un employé a demandé des poires à une ressource XYZ qui a autorisé les poires. Et un autre employé, par la suite, a demandé une banane puisqu'il était allergique aux fruits avec des pépins. Nous nous sommes retrouvés finalement avec une diversité de fruits incroyable, avec de la perte, considérant qu'il y avait une trop grande sélection. Donc, ça a été vu et perçu auprès de la gestion de l'organisation comme étant une initiative qui ne fonctionnait pas. Et au lieu de maintenir l'initiative, on l'a enlevée. Bon, nous sommes en cours de la remettre en place. Mais donc, ça signifie qu'il faut faire attention, être à l'écoute de nos employés, mais avoir quand même des courroies décisionnelles qui disent « oui, c'est une initiative qui s'inscrit dans l'expérience employée, elle peut être porteur ». Mais nous devons quand même venir cadrer ce que nous faisons en matière d'expérience employée. Le dernier défi auquel je penserai, les filles, est très, très rapidement, parce que je sais qu'on est à court de temps. Je vous parlais d'ambassadeurs tout à l'heure, les principaux ambassadeurs qui devront endosser l'expérience employée au cours des prochaines années, ce sont nos gestionnaires. Quand on parlait de diversité, Mélanie, 4 présences dans 80 pays, nos gestionnaires doivent avoir un alignement top-down et doivent savoir comment appliquer l'expérience employée auprès de leurs employés parce que ce sont eux qui connaissent le mieux les différences et les spécificités culturelles. Donc, c'est un gros travail d'équipe au niveau de l'équipe de gestion pour s'assurer d'avoir un empowerment auprès de nos employés, un niveau de satisfaction, mobilisation qui va satisfaire tout le monde. Alors, je pense que ça, c'est le prochain défi que nous aurons à mettre en place, toi et moi, à travers les 3-4 prochaines années.
Et quand tu parles de gestionnaire, c'est donc les managers, hein? C'est bien ça?
Oui, exactement, c'est en plein ça.
Merci, merci infiniment Annie. Ce fut un grand plaisir d'échanger avec toi et un grand plaisir aussi d'entendre ton accent québécois. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous deux. C'est un plaisir d'avoir pu être là. J'espère que l'expérience et ce que je vous aurai fourni sera inspirant pour vos auditoires. Dites-vous bien que cette expérience-là que moi je vis avec vous aujourd'hui, c'en est une pour moi-même comme employée, comme un beau moment d'expérience employée, puisque c'est un excellent moment que j'ai pu passer avec vous.
À bientôt sur Euradio. Stay tuned.
Workplace in Europe.